Bonjour, je m'appelle Margot Lanuzel et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, sommes-nous à la veille d'une tempête solaire aux conséquences désastreuses pour notre planète ? En 2024, un événement bien particulier est en tout cas attendu, un pic d'activité solaire. Et une poignée de fois par millénaire, ces pics sont d'une intensité de nature à bouleverser notre monde moderne. Une intensité suffisante pour ravager nos satellites et nos installations électriques, plongeant des villes entières dans le noir et clouant les avions au sol. Alors, qu'est-ce qui provoque ces éruptions solaires ? À quel point notre planète est-elle menacée ? Et que peut-on faire pour s'en protéger ? Pour répondre à ces questions, je reçois aujourd'hui Pierre Barthélémy, journaliste au service Sciences du Monde et spécialiste des questions astronomiques et spatiales. Cycle du Soleil, les terriens à la merci de leur étoile, un épisode de Garance Munoz, réalisation Florentin Baume. Nous sommes le 1er septembre 1859, vers 11h du matin. L'astronome britannique Richard Carrington observe le Soleil à travers son télescope. Cela fait plusieurs jours que de grandes taches sont apparues à la surface de l'étoile. Intrigué, Richard Carrington suit attentivement leur évolution. Et là, soudainement, un éclair semble déchirer les taches. Pendant plusieurs minutes, la lumière est intense, fulgurante. La nuit suivante, c'est le chaos sur Terre. D'immenses aurores boréales balaient le ciel. Des drapés lumineux verts et roses dansent aux quatre coins du monde. On peut en voir jusque dans les Caraïbes. En pleine nuit, la lumière est telle qu'on arrive sans gêne à lire le journal. Le lendemain, un article publié dans un quotidien américain témoigne de l'événement.
La lumière était plus forte que celle de la Lune à sa pleine puissance. Mais elle avait une douceur et une délicatesse indescriptibles qui semblaient envelopper tout ce sur quoi elle reposait. Entre minuit et une heure, lorsque le spectacle était à son apogée, les rues tranquilles de la ville reposant sous cette étrange lumière revêtaient une apparence aussi belle que singulière.
Mais la tempête solaire ne s'est pas contentée d'illuminer le ciel. Au moment où les terriens admiraient le firmament, l'unique moyen technologique de l'époque, le réseau télégraphique, s'affolait. Pendant la nuit, les courts-circuits s'enchaînent, des employés reçoivent des décharges électriques, les câbles prennent feu, enflammant les bureaux. Sur notre planète de 1859, les dommages s'arrêtent là. Mais quelles seraient les conséquences d'une nouvelle tempête de cette ampleur sur notre planète de 2024, ultra dépendante aux technologies ? Bonjour Pierre.
Bonjour Margot.
Pierre, tu vas nous détailler les conséquences possibles des tempêtes solaires à venir. Mais d'abord, j'aimerais que tu nous expliques comment tout ça fonctionne. On va essayer d'être pédagogue pour que nos auditeurs suivent bien. Les cycles du Soleil, comment ça marche ?
Alors, je vais essayer d'être clair, mais c'est vrai que tout ça est très complexe. Si complexe d'ailleurs que les astrophysiciens eux-mêmes ne savent pas comment ça marche dans le détail. Ils en ont les grandes lignes. Alors, disons pour simplifier que la cause de ces cycles, c'est ce qu'on appelle la dynamo solaire. Alors, comme tu le sais, le Soleil est une étoile, notre étoile. C'est une grosse boule de gaz, essentiellement de l'hydrogène et de l'hélium. Et ce gaz est ionisé. Il a perdu ses électrons, ce qui fait qu'il est électriquement chargé. C'est ce qu'on appelle un plasma. Et quand un plasma bouge, ça crée un champ magnétique, la fameuse dynamo dont je parlais au début. Et dans le Soleil, ça bouge beaucoup.
Et est-ce que tu peux nous décrire ce mouvement ? Comment ça bouge ?
Alors d'abord, il faut savoir que le Soleil, comme tous les corps du système solaire, tourne sur lui-même. Mais première difficulté, la rotation du Soleil est différente à l'équateur et au pôle. Et en plus de ça, il y a des mouvements verticaux à l'intérieur du Soleil, avec des gaz qui montent et qui descendent, un peu comme de l'eau bouillante dans une casserole. Alors ça paraîtrait chaotique à première vue, mais en fait, ça donne au bout du compte un cycle relativement précis, relativement régulier. Alors au début du cycle, tout semble tranquille, avec un pôle nord et un pôle sud magnétique bien en place. Mais progressivement, d'autres pôles se mettent à apparaître un peu dans tous les sens. On va dire que la dynamo solaire s'affole, ça devient de plus en plus complexe et puis ça craque d'un peu partout. Et ça finit par retomber, le Soleil retrouve son calme avec des pôles magnétiques nord et sud inversés. Tout ça a pris en moyenne un peu plus de 11 ans, mais en fait on peut dire qu'un cycle solaire complet dure 22 ans puisque finalement il faut deux inversions du champ magnétique pour revenir au point de départ.
Ok, et donc dans ce chaos ordonné que tu nous décris, à quoi correspondent les tempêtes solaires qui nous intéressent aujourd'hui ?
Alors tout d'abord, il faut savoir que des éruptions solaires, il y en a un peu tout le temps. Mais en général, il y en a plus et elles sont plus violentes au moment du pic d'activité du cycle. Ce pic, comme on le détermine, on a un très bon marqueur pour l'observer avec le nombre de taches solaires qui sont des zones de forte activité magnétique. À la surface du Soleil, les champs magnétiques piègent d'immenses quantités de particules dans des espèces de grandes protubérances, des grandes boucles. Et parfois, ces boucles se rompent, se coupent, et toute la matière qu'elles ont emprisonnée est propulsée dans l'espace.
Et donc, quand ces boucles explosent, cette matière, ces particules magnétiques, se retrouvent un peu partout dans le système solaire, c'est ça ?
Un peu partout, pas exactement. Disons que chaque boucle qui est expulsée part dans une direction de l'espace bien définie. Et si la Terre a la malchance d'être dans l'axe, on peut subir une tempête solaire. Mais il y a un autre élément important à avoir en tête. Ces cycles solaires ne se ressemblent pas tous. Il y en a qui sont très important et d'autres plus faibles. Le cycle actuel est un peu en dessous de la moyenne. Celui d'avant était vraiment faiblard, mais le précédent, qui a eu son pic d'activité au début du siècle, était nettement plus costaud. Et c'est la même chose pour les éruptions solaires. Il y en a souvent, mais on ne sait pas prédire leur intensité. Une très grosse tempête comme celle de l'événement Carrington, on estime qu'il y en a une toutes les 150 ans en moyenne, mais avec une marge d'erreur de 50 ans.
Une marge d'erreur de 50 ans, ça semble quand même très imprécis, Pierre.
Alors oui, on n'est pas encore très très doué en météo spatiale. Tout ce qu'on peut prévoir à peu près, c'est l'année où aura lieu le pic d'activité solaire. Et pour le pic actuel, ça devrait être donc cette année, mais on ne sait même pas bien dire quel mois.
D'accord, donc si je résume, quand le Soleil s'agite un peu trop, il éjecte des particules solaires qui parfois, quand on est dans la mauvaise direction, arrivent sur Terre. Qu'est-ce qu'il se passe si des humains y sont exposés à ces particules ?
Alors, en théorie, ces douches de particules électriquement chargées, très énergétiques, sont mortelles. Mais heureusement pour nous, la Terre a une sorte de bouclier naturel qui est créé par son propre champ magnétique. Et ce bouclier les dévie, il nous aide à supporter les humeurs du Soleil. Sans lui, il n'y aurait pas de vie telle qu'on la connaît à la surface de notre planète. Donc, nous sommes protégés, nous. En revanche, si on n'est pas sur Terre, ça se complique. Alors, dans la Station Spatiale Internationale, qui n'est qu'à 400 km d'altitude, hein, c'est pas très très loin, les astronautes restent à l'intérieur du bouclier magnétique, même si on sait qu'ils reçoivent des doses de radiation plus importantes que s'ils étaient sur le plancher des vaches. Mais si on va plus loin dans l'espace, si on va sur la Lune ou dans un avenir plus lointain sur Mars, là ça peut être tragique, parce qu'on n'est plus dans le bouclier, on n'est plus protégé. Je donne souvent l'exemple de l'année 1972. Pourquoi 72 ? Parce que c'est l'année où il y a eu les deux dernières missions du programme lunaire Apollo. Eh bien, entre ces deux missions, en août, on a assisté à une forte éruption solaire. Et s'il y avait eu des astronautes américains sur la Lune à ce moment-là, eh bien, ils auraient reçu une dose létale et seraient probablement morts au bout de quelques jours.
Donc heureusement qu'on a notre bouclier magnétique.
Oui, sauf qu'en fait, ce bouclier n'est pas parfait. Il n'est pas d'une robustesse absolue et parfois les particules solaires passent quand même et là, ça peut poser problème.
Ok Pierre, et donc notre bouclier magnétique imparfait, où est-il plus sensible ? Est-ce qu'il y a des trous un peu partout ou est-ce qu'il y a des zones plus sensibles que d'autres ?
Alors il y a un talon d'Achille, et ce talon d'Achille c'est autour des pôles, c'est ce qu'on appelle les cornets polaires, c'est là où les lignes du champ magnétique se rejoignent, et c'est dans ces régions qu'on assiste à des aurores polaires. Les particules solaires réussissent à passer, elles suivent les lignes du champ magnétique et lorsqu'elles entrent en collision avec les molécules de l'atmosphère, c'est ça qui donne ces lumières dansantes, vertes, roses, les aurores boréales si on est dans l'hémisphère nord ou australes si on est dans l'hémisphère sud. Ça rend aussi ces endroits plus sensibles quand on est dans un avion. Donc les équipages qui font des vols qui passent près du pôle Nord, comme un Paris-Tokyo, par exemple, ils se prennent des doses un peu plus importantes. Mais comme tu le sais, on peut aussi voir des aurores ailleurs que dans les régions polaires. On en voit de temps en temps dans le nord de la France, parce que parfois, le bouclier magnétique est moins efficace ou tout simplement parce qu'il y a une très forte éruption solaire qui va le tasser. Et dans ce cas, les particules vont pouvoir entrer à des latitudes plus basses. C'est ce qu'on a eu en 1859.
L'élément de Carrington dont je parlais au début de ce podcast. Et là, on en vient aux conséquences de ces particules solaires. Quelles pourraient-elles être aujourd'hui?
Alors, en 1859, comme tu l'as dit, ça n'avait pas eu des conséquences désastreuses parce que les sociétés étaient très peu technologiques, dans le fond. Et ça n'est plus du tout le cas aujourd'hui. On est de plus en plus technodépendants. On utilise de l'électricité, on utilise des ordinateurs, on utilise des réseaux, de la connexion pour presque tout. On a recouvert finalement la Terre de réseaux, de câbles, de rails, de tuyaux, de pipelines, des lignes haute tension, etc., etc., que des matériaux qui conduisent l'électricité. Alors, il faut savoir que dans une tempête géomagnétique, eh bien, ça peut créer des courants électriques dans le sol qui vont adorer ces matériaux. Et ça peut créer des surtensions dans le réseau électrique. Et c'est ce qui s'est passé en mars 1989 dans le nord de l'Amérique et au Québec. Le réseau électrique n'a pas tenu à l'occasion d'une éruption solaire. Et il y a une coupure d'électricité géante au Québec qui a duré une dizaine d'heures. Bon, ça c'était en 1989. Et c'était une époque sans Internet, sans GPS, sans téléphone portable, avec beaucoup moins d'électronique embarquée dans les moyens de transport. Et on estime que si un événement de type Carrington arrivait aujourd'hui, les conséquences seraient sans doute bien plus importantes. Sans compter que, d'après les travaux d'un astrophysicien japonais, c'est pour faire un peu peur, mais bon, il peut y avoir bien pire qu'un événement Carrington. Il peut y avoir des éruptions 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus importantes.
Alors, si on se projette un peu dans ce scénario catastrophe, concrètement, qu'est-ce qui pourrait se passer? Est-ce que tu peux nous donner des exemples?
Alors, j'ai déjà parlé de tout ce qui se passe au-dessus de nos têtes, à commencer par les satellites, parce que même si on ne les voit pas, même si on n'y pense pas, nous sommes de plus en plus dépendants des satellites, que ce soit pour la météo, pour le GPS, le positionnement par satellite, pour les communications, pour la défense aussi. Il faut savoir que des particules très énergétiques peuvent griller l'électronique des satellites et les mettre hors d'usage. Alors, un deuxième point, un peu plus bas, si on descend en altitude, les éruptions solaires peuvent aussi perturber l'atmosphère et en particulier une couche en altitude qui s'appelle l'ionosphère et qui est utilisée pour les communications longue distance, notamment pour communiquer avec les avions. Donc le risque, si l'ionosphère est perturbée, c'est de perdre carrément le signal des avions, de plus savoir où ils sont, de plus pouvoir les guider. Pour les militaires aussi, c'est très embêtant car la précision du GPS peut être perturbée et on imagine les conséquences quand on a des missiles qui sont téléguidés. Autre exemple que je peux donner, c'est la perte de signal radar. Et c'est arrivé en Suède en 2015 où l'aviation civile a été clouée au sol. Pour cette raison, il n'y avait plus de radar. Alors, quand on est plus bas, c'est-à-dire au niveau du sol, bon, bien sûr, il y a le risque de voir s'effondrer le réseau électrique, mais on se pose aussi la question de savoir si on pourrait pas avoir des incidents graves dans l'électronique qui est embarquée dans les avions, dans les voitures modernes. Il y a aussi toutes ces usines d'ordinateurs, ces fermes pour le cloud, pour Google, pour Facebook, etc., etc. Si jamais un événement de Carrington se produisait, on estime qu'on pourrait mettre des mois, voire peut-être même un an ou plusieurs années avant qu'on ait un retour à la normale et avec un coût de plusieurs milliers de milliards de dollars. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on s'est rendu extrêmement fragile face au soleil et on l'a dit, un pic d'activité aura lieu normalement cette année qui ne sera pas forcément gigantesque mais quand même potentiellement problématique.
Pierre, tu nous as dit qu'on ne pouvait pas prévoir aujourd'hui précisément quand surviendra la prochaine gigantesque tempête solaire, mais on sait qu'il y en aura une un jour, quand la dynamo solaire jouera contre nous. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher ce chaos d'arriver?
Bon, l'ennui, c'est qu'on ne peut pas faire des prévisions météo dans l'espace aussi précises que celles qu'on a sur Terre. On ne peut pas dire, par exemple, telle boucle magnétique du Soleil va lâcher à telle date ou à telle heure. En revanche, on peut la voir lâcher en direct, puisqu'en fait, on observe avec des sondes, on observe le Soleil 24 heures sur 24, Et si jamais on voit une boucle lâchée, si on voit une expulsion de matière qui vient dans notre direction, on peut dire qu'on aura une tempête géomagnétique dans 2 ou 3 jours. L'autre ennui, c'est qu'on ne sait pas non plus dire si le bouclier magnétique de la Terre est en forme ou pas. Il peut parfaitement nous protéger contre une tempête forte, s'il est en forme, et mal nous protéger contre une tempête moins puissante s'il est moins efficace ce jour-là. C'est assez fluctuant, c'est ce qu'on appelle la géo-effectivité. Il y a des solutions quand même pour les satellites. Certaines sont déjà évidemment mises en place. On les équipe avec des composants qu'on dit durcis, des composants électroniques durcis, qui résistent beaucoup mieux aux particules que les puces du commerce. On peut aussi dire aux opérateurs de satellites, attention, danger, donc éteignez vos satellites le temps que la tempête passe, mais pour ça, il faut être sûr de son coup. Et pour les infrastructures électriques au sol, bien évidemment, on peut renforcer les réseaux. Et de ce point de vue-là, d'après ce qu'un chercheur m'a dit, le réseau français est plutôt bien conçu. Au Canada, après 89, il y a eu des investissements pour pas que ce type d'événement se reproduise. Aux États-Unis, en revanche, on sait qu'il y a encore des faiblesses. Bon, toutes les parades ont un coût, et j'ai pas été étonné d'apprendre que des compagnies d'assurance s'intéresser aux travaux des astrophysiciens sur les colères du soleil.
Donc pour l'instant, ce que tu nous dis, c'est qu'on n'est pas vraiment tout à fait au point, on tâtonne un peu, mais j'imagine que les scientifiques mettent tout en œuvre pour améliorer leurs prédictions de ces tempêtes.
Alors c'est vrai que si on veut faire de la bonne météo de l'espace, des bonnes prévisions, eh bien il faut d'abord continuer encore et encore d'étudier le soleil pour bien le comprendre. Si nos bulletins météo sur Terre sont aussi précis et aussi fiables, avec plusieurs jours d'avance, on a des prévisions de 8 à 10 jours, c'est parce qu'on a fait beaucoup de science en amont pour comprendre le fonctionnement de l'atmosphère, du climat, c'est parce qu'on a envoyé dans l'espace beaucoup de satellites météo et leurs données nourrissent les modèles de prévision. Et en fait, tout simplement, les astrophysiciens veulent faire la même chose. La même chose avec le Soleil, qui est désormais observé en permanence, en tout cas la face que l'on voit, parce qu'évidemment, nos satellites sont plutôt de notre côté, donc on ne voit pas ce qui se passe derrière ou sur les côtés. Et l'ennui, c'est que comme le Soleil tourne, on aimerait bien pouvoir le regarder de côté pour savoir quelles zones actives seront en face de nous dans quelques jours et si elles risquent de craquer. Et l'Agence spatiale européenne a un projet pour lancer une sonde et la mettre de côté par rapport au Soleil. Je voudrais quand même ajouter un mot moins catastrophiste pour finir, parce qu'on a beaucoup parlé de risques, mais j'espère, comme beaucoup d'astrophysiciens auxquels j'ai parlé d'ailleurs, que tout ça permettra aux gens de se rendre compte que même si on a l'impression que le Soleil est toujours le même dans le ciel, toujours la même petite boule, même si on a l'impression qu'il est toujours égal à lui-même, en fait, c'est une étoile vivante. Et donc, j'invite les auditeurs à regarder sur Internet les images quotidiennes de la sonde SDO, Solar Dynamics Observatory, et on y voit toute cette activité, toutes ces protubérances, toutes ces zones brillantes dont on a parlé. Et c'est très parlant, et en plus, c'est beau.
Merci Pierre.
Merci Margot.
Pour suivre toute l'actualité spatiale et notamment la surveillance de la potentielle prochaine tempête solaire, je vous invite à lire les articles du service Science du Monde. Avant de nous quitter, un petit mot pour vous rappeler que nous existons grâce à votre soutien. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de ce podcast ou à vous rendre sur abopodcast.lemonde.fr pour profiter de notre offre spéciale pour les auditeurs et auditrices de l'Heure du Monde, un mois d'accès gratuit à l'ensemble de nos contenus. L'Heure du Monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi. Merci de votre fidélité et à demain.